À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Marche en ma présence », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Nous explorons ce que c'est que vivre en présence de Dieu, que de marcher avec lui. C'est la découverte bouleversante de l'amour de Dieu pour nous, l'amour premier, l'amour inconditionnel, l'amour créateur qui nous met en marche vers lui, qui nous attire à lui. Sa présence se traduit par de la lumière. C'est une entrée dans le monde de la lumière. Ça se traduit aussi par la jubilation de l'action de grâce. Ça transforme notre style de vie. Telles sont les grandes lignes qui se dégagent du portrait que nous sommes en train de tracer de la personne spirituelle. Le peintre ordinairement commence par de larges plages de couleurs. La couche de fond. Et petit à petit, il lui faut arriver au détail, arriver à préciser les traits du visage ou du paysage qu'il veut peindre. Quand on choisit de marcher avec Dieu en sa présence, il ne peut pas faire autrement que de s'établir un dialogue entre lui et nous. Le Seigneur se manifeste à nous en route, par sa parole, par ses appels, qui demandent de notre part des réponses. Une sorte de dialogue s'établit avec celui qui marche avec nous. Voilà le thème que nous abordons aujourd'hui. Le Dieu des chrétiens, et c'est original, c'est un Dieu qui parle, qui se communique, qui veut entrer en relation et en communication avec sa créature. Le Dieu des chrétiens n'est pas sourd. C'est là vraiment une caractéristique de notre religion judéo-chrétienne. Dieu procède par appel. Il établit un dialogue avec sa créature. Et ce dialogue entre Dieu et l'homme se manifeste dans le temps, dans le devenir, et exprime que chacun existe l'un pour l'autre. Vous avez sûrement fait l'expérience de quelqu'un qui décide de ne plus vous parler, qui boude, qui ne vous adresse plus la parole. C'est comme s'il niait votre existence. C'est comme s'il vous disait « Tu n'existes pas pour moi. Tel n'est pas le Seigneur pour nous. » Le Seigneur, en prenant la parole, nous fait exister pour lui. Il faudrait réfléchir ici sur le mot « parole » utilisé dans l'expérience spirituelle chrétienne, dans la Bible. On parle toujours de la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Le Christ qui est le Verbe incarné. Au commencement était le Verbe. Cette expression est très riche. La parole implique deux personnes qui entrent en communication. Jésus est essentiellement parole en ce sens qu'il est totalement ouverture à l'autre et communication de lui-même. Il nous communique Dieu. Pour Dieu, parler, c'est se donner dans sa parole. C'est donner sa parole, comme on donne sa parole à quelqu'un. On s'engage vis-à-vis de lui. Un de mes amis m'a fait comprendre un jour que le verbe dans une phrase, c'est ce qui donnait le sens à la phrase et le dynamisme de la phrase. Enlever le verbe d'une phrase, la phrase n'a plus de sens. Si vous dites Paul tomate, vous comprenez rien. Si vous ajoutez un verbe, ah, la phrase prend tout son sens. Paul aime les tomates. Paul plante ses tomates. Paul lance des tomates. Le Christ est le verbe de Dieu. Il est celui qui donne à notre vie son sens, sa signification, son dynamisme. Dieu parle en Jésus-Christ et il parle fort. Et ceci, c'est à l'opposé des dieux païens qui ne parlent pas, qui sont des idoles muettes. Jérémie parle, c'est très intéressant, il parle de ces idoles qui sont comme un épouvantail dans un champ de cocombres. Elles ne parlent pas. Il est passionnant d'explorer la manière de Dieu de se comporter vis-à-vis de nous, sa façon de nous parler. Je vous donne quelques caractéristiques qui seraient bon d'approfondir. Dieu parle le premier. Il appelle le premier. Ça fait partie de l'idée d'appeler que d'être le premier. Il prend la parole le premier et c'est caractéristique de sa manière vis-à-vis nous. C'est cela appelé. Chez les hindous, les disciples font du shopping, pour ainsi dire, ils font le tour des maîtres spirituels, écoutent leurs enseignements, regardent leur agir et quand ils ont découvert un bon maître, s'attachent au maître. C'est les disciples qui choisissent les maîtres. Dans la tradition judéo-chrétienne, c'est l'inverse. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu nous appelle, et il nous appelle le premier. C'est une véritable révolution que Dieu prenne l'initiative de s'approcher de nous pour nous parler, pour nous prendre avec lui. Les appels de Dieu, ils sont tout partout dans notre vie. Notre première vocation, le premier appel, c'est l'appel à exister. C'est pour ça que c'est intéressant de fêter les anniversaires. Notre première vocation, la vocation à l'existence. Exister, c'est être appelé à l'existence. L'existence par cette parole vivante et aimante. Nous sommes donc essentiellement vocation dans ce sens-là. Depuis la fondation du monde, dit l'Éphésiens 1, tu nous as choisis pour être en Jésus-Christ tes enfants. Mais l'appel ne se limite pas à l'existence. Dieu continue d'appeler tout au long de notre vie. Ce sont nos vocations particulières. On retrouve ces vocations à travers la Bible. Dieu appelle Abraham, Dieu appelle Moïse, Dieu appelle les prophètes. Dieu appelle Marie, Jésus appelle ses apôtres. L'étude de ses vocations à travers la Bible est lumineuse. Ça nous dit beaucoup de choses, des mœurs de Dieu à notre égard. Ben, tout d'abord, il prend l'initiative, c'est déjà très consolant. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous court après, pour ainsi dire. C'est lui qui nous cherche, qui vient nous chercher. Deuxième caractéristique, dans cet appel, il manifeste sa volonté. S'il nous appelle un peu comme nos mères qui nous appelaient quand on était jeunes pour venir souper, quand on nous appelle, on demande « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Alors, Dieu manifeste sa volonté à travers ses appels. Ce sont des appels personnels. Vous connaissez le texte célèbre d'Isaïe 43. Seigneur, nous appelle par notre nom. Et vous savez que le nom nous renvoie à notre moi profond, désigne notre identité particulière. Dieu nous donne notre nom en nous appelant, ce nom qui est gravé sur le caillou blanc dont parle l'Apocalypse. Puis il nous appelle avec des critères déroutants. Dieu nous appelle avec des critères déroutants. Là aussi, c'est très consolant pour nous. Son appel, il est premier, gratuit, inconditionnel. On a l'impression que le Seigneur prend des gens qui ne sont pas capables. Des gens qui se trouvent dans l'impossibilité de réaliser la mission qu'il veut leur donner. Abraham est stérile et il est choisi pour être le père des nations. Moïse est choisi pour être le porte-parole de Dieu et Moïse bégaye. La Vierge Marie, elle est choisie pour mettre au monde Jésus et elle est vierge. Et dans l'Ancien Testament, il y a toute une tradition où ce sont les vierges et les stériles qui enfantent. Le choix des apôtres est tout à fait déconcertant. Jésus prend des gens sans culture religieuse, si on peut dire, pour devenir ses apôtres. Les deux piliers de l'Église, Pierre et Paul. Paul est un persécuteur, Pierre va devenir un traître. Pour des piliers, c'est pas tellement solide. On a l'impression que tout au long de l'Écriture, de la Bible, les appels de Dieu s'adressent à des gens qui ne sont pas capables. Et vous savez pourquoi il en est ainsi? Parce que c'est jamais plus clair que ça vient de Dieu quand les personnes ne sont pas capables. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il s'engage chez cette personne à faire advenir la mission qu'il donne à la personne. Ce n'est jamais plus clair que ça vient de Dieu quand les personnes sont incapables de répondre à l'appel ou de réaliser la mission qui leur est confiée, qui est toujours, entre parenthèses, une mission impossible. Il faut lire ici le très beau récit de Jonas qui dit oui puis qui s'en va exactement à l'opposé de là où le Seigneur l'appelle. L'appel de Dieu est constant. Si vous, vous êtes infidèle, moi je suis fidèle, dit le Seigneur. Il va aller repêcher, c'est le cas de le dire, notre ami Jonas dans le ventre de la baleine. Quand le Seigneur appelle, il s'engage dans la vie de celui qui l'appelle. Et c'est sa force à lui qui se manifeste jamais plus clairement quand la personne est incapable par elle-même. Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom. Tu comptes à mes yeux, tu as du prix, je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Dieu appelle partout et toujours. Il appelle à travers des signes qu'il nous fait dans notre vie. Il y a des signes extérieurs de ce que le Seigneur veut nous communiquer. Évidemment, le signe par excellence, c'est Jésus. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Regardez Jésus. Hein? Qui me voit, voit le Père. Jésus est le révélateur de Dieu. Des signes aussi à travers l'histoire. Dieu a parlé par sa création, il a parlé par les prophètes. Il continue de parler par son Église. Il parle à travers les signes des temps. Ce sont, si on peut dire, des signes extérieurs à soi. Il y a un autre langage sur lequel il faut attirer notre attention, c'est le langage intérieur. Nos parents, nos grands-parents parlaient toujours la voix de Dieu dans la conscience. Il faut s'arrêter à cette réalité de ce qui se passe en dedans de nous-mêmes et qui, à la vérité, est un véritable langage. J'irais même jusqu'à dire que c'est le langage particulier de la vie spirituelle, ce qu'on appelle les mouvements intérieurs, les choses qui bougent en dedans de nous-mêmes. Les Japonais ont un mot pour parler de ce qui bouge en dedans de nous-mêmes, ils appellent ça le kimochi. Le kimochi. Le kimochi, c'est l'ensemble des sentiments, de ce qui bouge. J'appelle ça aussi la météorologie intérieure. J'ai déjà accompagné une Japonaise qui commençait toujours ses rencontres en me décrivant son kimochi. Un peu comme on pourrait décrire là, sur les journaux, à la télévision, le temps qu'il fait aujourd'hui, celui de demain, celui après-demain. Elle me disait « Aujourd'hui, ça a été ensoleillé en dedans. Hier, ça a été couvert, il n'y a rien qui se passait. Le jour d'avant, oh là là, c'était terrible. » C'était la débâcle, le vent, la tempête. C'est intéressant, ça rejoint notre vécu. Notre kimochi, les mouvements intérieurs sont très importants parce que c'est un langage qui nous dit quelque chose de Dieu. Aux appels de Dieu correspond l'écoute, évidemment. Il y a des gens qui disent « Dieu ne parle pas ». C'est peut-être à cause de leur surdité, beaucoup plus qu'à cause du mutisme de Dieu. Dieu parle, il parle fort, il parle partout. Pour écouter, il faut faire le ménage en dedans. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférences, il ne faut pas qu'il y ait d'autres voix. Sans ça, il n'y a rien de compréhensible en nous. Il y a quelqu'un qui disait qu'on a deux oreilles et juste une bouche pour écouter deux fois plus que pour parler. Sans ça, on aurait une oreille et deux bouches. Il est très difficile d'écouter. Il est très difficile d'écouter longtemps. Un très beau texte du père Van Bremen qui décrit ça. À propos de Jésus, qui était le maître de l'écoute. La façon dont quelqu'un écoute est révélatrice. Écouter vraiment signifie que nous faisons de l'autre le centre de notre attention. Lorsque je parle, je suis le centre et c'est facile, je puis parler pendant des heures. Lorsque j'écoute, l'autre est le centre et je dois fixer mon attention sur lui. Et il est difficile, très difficile, de maintenir cette écoute, car très vite, je veux faire une remarque. Habituellement, j'ai vite achevé d'écouter et je suis dans l'attente de l'interruption qui me permettra de reprendre la parole. Cela demande déjà une certaine politesse d'attendre que cette occasion. Mais si je suis impoli, j'interromps tout simplement l'autre. Dans les deux cas, j'ai cessé de donner mon attention à l'autre. Je ne l'écoute plus. Je suis absorbé par ma propre réponse et l'autre parle pour rien. Ça, ce sont des expériences que vous avez sûrement vécues. Il est très difficile d'écouter. Et pour écouter, il faut être libre en dedans de soi, de tout souci. Être libre, 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 pour se centrer totalement à l'autre. Si jamais vous avez eu une expérience d'être écouté, vous savez combien c'est bon. Ça nous fait exister face à l'autre. J'allais dire, ça nous rend intelligents d'être écouté par quelqu'un. Le petit Samuel avait beaucoup d'écoute. Vous connaissez Samuel qui est allé déranger trois fois au cours de la nuit le prophète Élie. Alors, écoutez en particulier les autres, mais écoutez aussi ce qui se passe en dedans de nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Écoutez ce que Dieu veut nous dire alors qu'on marche en sa présence par les signes intérieurs qu'il nous fait. Il y a trois étapes, si on peut dire, dans cette écoute, qu'on pourrait décrire comme la démarche du discernement spirituel. Démarche du discernement spirituel, du discernement des esprits, des influences qui nous sollicitent intérieurement, comporte trois étapes. La première étape, tout d'abord, c'est bien sûr, c'est de percevoir qu'il y a des choses qui bougent en dedans de nous-mêmes. On a dit que les femmes sont plus sensibles à ce qui se passe en dedans d'elles-mêmes, peut-être à cause de leur maternité. Les hommes sont souvent plus à l'extérieur, ou quand il se passe des choses en dedans, ils évitent, ils mettent le couvercle là-dessus, ils font diversion. La première étape, c'est d'écouter, de saisir qu'il se passe des choses dans mon kimochi, en dedans. La deuxième étape, c'est de décoder le langage intérieur en commençant, le mot discernement le dit, à faire la part des choses. Ce qui se passe en dedans de moi-même, d'où est-ce que ça vient? C'est de chercher l'origine des mouvements intérieurs. Je vous donne un exemple. Je peux me sentir mal en dedans. Ça peut provenir de n'importe quoi. Du baromètre qui fait des folies parce qu'il y a une tempête qui s'en vient. Vous savez qu'on a 15 livres au pouce carré de pression sur le corps. Or, quand la pression fait des folies, monte ou descend, les cellules ont à se réajuster, puis je me sens mal. Il faut pas courir chez le psychologue si on se sent mal. Vaut mieux s'acheter un baromètre. C'est physique, c'est pas psychologique. Il y a des malaises qui sont psychologiques, qui se passent en dedans. Il y a des malaises qui sont de l'ordre moral. Je compte un mensonge, je me contredis intérieurement. Ça dépend de la fidélité à mes jugements. Et là, je me sens mal et c'est bon signe. Ben, je veux dire, c'est bon signe. C'est le signe qu'il y a quelque chose que je fais mal. J'apprends à identifier l'origine de ce qui se passe en dedans de moi-même. Il y a des choses qui relèvent de ma relation à Dieu. Je peux me sentir mal à l'aise de me présenter devant lui, de marcher avec lui. Je peux m'écarter de lui à l'occasion. Alors, première étape, saisir qu'il y a des choses qui se passent en dedans de moi-même. Deuxième étape, saisir l'origine, d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est physique, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est moral, ou est-ce que c'est spirituel? Et la troisième étape, c'est d'essayer de voir quelle est la signification de ce signe. Pourquoi je me sens ici, en dedans de moi-même? C'est de lire, de décoder proprement la signification des malaises ou des joies. Remarquez, ça vaut aussi pour tous les autres sentiments qui nous habite. On peut s'exercer au discernement avec le temps, en portant attention à ce qu'on vit en dedans. C'est un langage et c'est très précieux. C'est très précieux. Évidemment, le temps nous amène à comprendre facilement ce qui se passe en dedans. Hein? Plus on est, par exemple, familier avec Dieu, plus ça sera facile de découvrir les signes qu'il nous fait. Le père Green, qui a écrit un très beau livre là-dessus, sur le discernement qui s'intitule « Le bon grain par est livré ». Oui, du manque de wheat. Il disait un homme qui est marié depuis 40 ans, il n'y a pas de difficulté à faire le cadeau pour sa femme quand c'est son anniversaire. Mais quelqu'un qui ne nous connaît pas, il y aurait beaucoup de difficultés à savoir qu'est-ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas. Alors la fréquentation, la familiarité, on retrouve dans l'Évangile des passages qui nous disent cette chose quand le Seigneur nous dit, en parlant du bon pasteur et du faux pasteur, « Les brebis écoutent ma voix, je les ai élevées, ça fait des années que nous sommes ensemble. » Mes brebis n'écouteront pas la voix d'un étranger. La familiarité avec Dieu rend facile la lecture des appels que Dieu nous fait dans notre propre vie. Marcher en la présence de Dieu, c'est réaliser une sorte de fréquentation, une sorte d'apprivoisement entre moi et le Seigneur. C'est accueillir ces appels à travers les signes qui peuple mon vécu. C'est utiliser beaucoup de patience pour reconnaître ces signes-là, reconnaître leur origine et savoir décoder leur signification. C'est un apprentissage que nous avons à faire. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'éventuellement, nous pouvons prendre des décisions avec la complicité de l'Esprit en nous. Dans le très beau texte des Actes des Apôtres, au chapitre 15e, verset 28e, il est dit quelque chose de merveilleux. « L'Esprit et nous, nous avons décidé. » C'est une véritable alliance qui se tisse entre Dieu et la personne. Marcher en présence de Dieu, c'est d'arriver à réaliser une sorte de dialogue, une sorte de rencontre, une sorte d'apprivoisement réciproque qui fait qu'éventuellement notre vie, nous le verrons, devient féconde, devient riche, devient pleine de joie, devient créatrice avec Dieu créateur.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.